Alors, ce matin, on va traiter un sujet. Est-ce que vous connaissez l'histoire, l'expression qui dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Vous connaissez ça? Eh bien, ce sera le sujet de ma prédication ce matin. Alors, je vais utiliser quelques expériences que j'ai vécues à Madame, et vous inquiétez pas, on ne va pas parler que de Madame, on va se recentrer un peu sur la parole de Dieu. Mais je suis parti avec ce que je savais. C'est-à-dire que je savais que je ne pouvais pas tout anticiper. Je savais que j'arrivais dans un contexte, un endroit où j'étais jamais allé, que j'avais un objectif, mais que je ne pouvais pas tout anticiper parce que tout simplement, je ne connais pas la culture, je ne connais pas le fonctionnement. J'avais des sous, on avait des sous en place, en poche. Mais voilà, je ne pouvais pas tout contrôler. Mais en tête, je m'étais dit, on arrive tel jour et il faut que très rapidement je sois sur le chantier. Dans ma tête, je m'étais mis cette idée, il faut très vite que j'aille sur le chantier pour me rendre compte. J'ai besoin de me rendre compte vite, pour pouvoir réagir vite, car on n'est là qu'une semaine. Donc déjà, hop, je m'étais imposé quelque chose. Et première chose qui se passe, c'est que vol décalé, on n'arrive plus à 11h à Mada, mais on arrive à 20h, donc compliqué. Et donc je regarde Rodolphe et je dis, Rodolphe, écoute, c'est dommage qu'il nous ait décalé notre vol, parce que j'avais vraiment envie d'être là le premier jour. Pas pour travailler, mais pour sentir les choses, pour voir ce qui se passe. Et puis il me dit, écoute, tu sais quoi, Alexis? De toute manière, t'aurais pas pu, parce qu'à Madagascar, il y a tellement de bouchons que même à 11h, on n'aurait pas pu se rendre au chantier. De l'aéroport au chantier, c'était impossible. Ben, je dis, ben, tu vois, je m'étais déjà fait des idées, j'avais déjà mis des choses dans ma tête qui étaient impossibles. Donc voilà. Alors, voilà, prise d'info, mise en place du chantier. Et puis finalement, ça a commencé tout de suite. On arrive à l'aéroport, on prend nos bagages. Déjà, avant de partir, on a compris ce qu'était la culture malgache. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de sous. Et donc, il y avait un couple, un pasteur, une pastoresse qui était là-bas, qui est responsable d'une grande fédération à Madagascar, qui était là. Et puis, on a vu les Malgaches à l'aéroport remplir les bagages. Bon, toi, tu as 28 kilos. Toi, il faut que tu arrives à 24. Et puis, on se retrouvait devant l'aéroport à ouvrir tous les bagages et puis à dispatcher pour que tout le monde parte avec ce qu'il avait besoin de repartir. Ouais. Et puis, moi, j'étais là, ma valise d'Européen bien rangée. Et puis, j'ai dû ouvrir ça devant tout le monde. Il y avait mes slips devant tout le monde. Et puis, remplir. Vous voyez, ça casse un peu nos fonctionnements, là. Je dis, ah, quand même, ça commence comme ça. Je dis, ah là là. Vous voyez, on est très. Vous me comprenez, là. Et puis j'arrive devant, on arrive sur le parking. Rodolphe prend la voiture et il doit payer son ticket hein, pour sortir du parking. Et puis là, il passe le bip et la barrière se lève pas. Alors moi, je regarde l'heure. Une minute passe, 2 minutes passent, 3 minutes passent. En moi, ça commence à m'agacer. Je dis mais c'est pas efficace ce truc-là. Bon, Rodolphe, ce serait bien de trouver une solution quand même. Hein. On a envie d'aller à l'endroit où on doit aller. Il me regarde et il me dit Alexis, mora mora. Ça veut dire ça, mora mora. Dis, Alexis, ici, c'est tranquille, tranquille. Il dit, moi, je suis venu, je veux aller sur le chantier, je veux voir, je veux me rendre compte, je suis en mode chronomètre, je suis en mode hyper efficace. Et là, tu me dis, ça commence, mora mora. Je dis, Seigneur, on est dans quoi, là? Ok, je ne pouvais pas anticiper tout ça, mais là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour ma tête bien, bien rangée. Et voilà, il a fallu vraiment tout de suite s'adapter. Il a fallu casser immédiatement toutes nos habitudes, nos concepts. Parce que si tu ne casses pas tout ça, tu ressors frustré. Ça ne se passera pas comme tu as envie et puis ça se passera mal. Alors, on va voir un petit peu quelques histoires. Vous savez, Jésus, il était de ceux qui posaient beaucoup de problèmes. Parce que quand il parlait, quand il disait des vérités, il venait chambouler des habitudes religieuses. Il venait aussi chambouler beaucoup d'habitudes sociales. Et les gens étaient mal à l'aise parfois face à certains de ces messages parce que ça dérange. On peut le voir dans Matthieu au chapitre 9. Siri, si tu peux arrêter de m'écouter, merci, ce serait sympa. Oui, tu m'agaces. Et on peut le voir dans Matthieu au chapitre 9. On peut voir que, avec l'image des collecteurs d'impôts, Jésus va inviter des collecteurs d'impôts à sa table. C'était très mal vu. Mais il va les inviter à sa table. Les gens vont commencer à discuter. Mais pourquoi il fait ça? Comment c'est possible que lui invite ces gens-là à notre table? Ensuite, il va guérir dans le milieu religieux, il va casser certains concepts. Il va guérir le jour du sabbat. Ah là, qu'est-ce qu'il fait pas, Jésus? Tout le monde va se soulever, mais il est fou de faire ça, c'est interdit. Il casse certains concepts. Ensuite, il va faire quelque chose qui est encore dans nos milieux, encore dans nos milieux difficiles. C'est qu'il va parler à une femme en public, seule. Ça ne se faisait pas à l'époque. Mais il va le faire. Non seulement il va parler à une femme en public seule, mais il va faire d'elle son disciple. Encore pire. Aujourd'hui, on discute, est-ce que les femmes, elles peuvent prêcher ? Ouais, on est toujours sur les mêmes concepts. Très compliqué, mais vous voyez, il cassait certains concepts. Ensuite, on va voir qu'il va se permettre de pardonner les péchés. Il va dire, je te pardonne. Ça va encore susciter des altercations, des discussions, des réflexions, où il casse des principes. Et toujours la question de briser certaines traditions et des normes établies. Et il va toujours mettre l'accent sur l'amour, la compassion et la miséricorde. Il va dire, ça c'est les normes, mais ce qui est plus important, c'est l'amour, la miséricorde. Ce qui est plus important, c'est d'exprimer la compassion que la norme et ce qui est établi. Et ça dérange. Eh ben, moi, j'étais dérangé devant ma barrière qui ne se levait pas. Je suis trop habitué à passer, ça se lève. Vous voyez, on est des seigneurs, nous, ici. Alors, avec Yannick, on est arrivé avec notre esprit bien français. Hein, Yannick ? Bien français. Yannick, je l'ai vu parfois, ça chauffait dans sa tête. Mais il est bien éduqué, donc il canalisait. Hein, vraiment, un beau sourire. Oh ! Il se canalisait parfois. Mais tous les deux, on est arrivé. Hein. Pourtant, il est martiniquais. Moi, je suis d'origine d'Europe de l'Est. Hein, mais bon français, bien éduqué à l'école de France. On n'a pas le même background, mais... Voilà, on arrive quand même avec nos pensées bien, bien cartésiennes. Et on se rend compte que nous, ben, on vit dans quoi ? On vit dans des maisons cubiques. C'est juste, plus ou moins, cubiques. On se déplace dans une caisse, une voiture. On travaille dans une boîte. Ce qui fait de nous des gens carrés. Sache que tu es le produit d'une société. Tu peux dire ce que tu veux. Tu es impacté, influencé par la société. Et tu vas produire des attitudes, tu vas acquérir des habitudes qui te sont infusées par la société, par le fonctionnement de là, l'endroit où tu vis. Que ce soit bien, bénéfique, je ne vous parle pas de bien ou de mal. Je te dis juste que tu es le fruit de l'endroit où tu vis. On dit que tu es ce que tu manges. On mange beaucoup de choses aussi intellectuellement qui font de nous et qui créent nos principes, qui créent qui nous sommes. Mon ami, tu es carré. Si tu es en France depuis plus de 2 ans, la France t'a limé. D'accord ? Tu étais très rond. Et pourtant, moi, ici, je me considère comme un hybride. Je suis moins carré que ma femme, mais je suis plus carré que certains. Mais j'aime pas être trop carré. Il y a quelque chose d'important pour moi, c'est de ne pas être rigide. J'ai compris que la rigidité est un problème dans le royaume de Dieu. Mais en même temps, j'aime bien quand ça fonctionne correctement. C'est juste. Alors moi, je me considère comme un hybride, mais je suis arrivé là-bas, j'ai compris que j'étais hyper carré. Alors ça nous transforme, ça nous change. On a été déstabilisé, mais on a dû grandir dans notre souplesse. N'est-ce pas, Yannick ? Il y a juste une chose que tu n'as pas laissée de côté, c'est qu'Yannick, c'est un Martiniquais, et systématiquement, le matin, il a besoin de repasser ses habits. Alors, il s'est débrouillé. À Madagascar, il a toujours trouvé le moyen d'être nickel. Alors moi, il me voyait, il me regardait, j'étais toujours un peu, vous voyez. Il dit, ah, tu fais pas. Non, je fais pas, Yannick, et je ferai pas. C'est ton truc. Débrouille-toi tant qu'on part à l'heure. Donc, on a bien rigolé avec tout ce genre de choses, mais voilà, on a été travaillé. Alors, on va lire un passage, Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée aux divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Ici, c'est une parole que vous connaissez toutes, mais qui pour moi a pris vraiment une grande valeur durant ce voyage. Et j'ai compris vraiment beaucoup de choses, et en même temps, je me dis, on est vraiment. On voit vraiment les différentes façons de fonctionner. Jésus arrive et la bienséance veut qu'on le serve, la bienséance veut que tout soit carré, que la maison soit nickel. Nous, quand on reçoit, on s'active à la maison, il faut que tout soit bien, on met un petit coup au propre. Quand les fondamentaux, ils arrivent, on leur dit, vous savez, les fondamentaux, vous nous laissez le battement, s'il vous plaît, soyez pas 10 minutes à l'avance, parce que 10 minutes à l'avance, chez nous, c'est le chaos. Qui a fait les fondamentaux avec nous? On vous l'a dit, hein? 10 minutes avant, c'est trop tôt. Et Gadiel, elle vient toujours avant. Et puis 10 minutes avant, c'est le chaos parce qu'on mange, il faut qu'on range, il faut qu'on soit prêt pour vous. On a ce petit battement de 10 minutes pour être organisé. Quand il y en a un qui sonne avant, je suis là, Seigneur, ils n'ont rien compris. Vous comprenez, on a nos habitudes. On est là, on fonctionne, il faut que tout soit organisé. Et puis ça, c'est Marthe. Jésus arrive et il faut que ce soit carré, tu vois. Pourtant, Marthe... pas une européenne, hein, pas une occidentale, non? C'est-à-dire que quelque part, on peut se dédouaner, il n'y a pas que nous, les Français. C'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit que tout soit bien fait pour que ça fonctionne bien. Et Marthe, elle est là, il faut que ce soit bien fait, et puis elle va dire, regarde, elle va se permettre de dire à Jésus, regarde ma sœur, elle est là, assise à tes pieds, mais dis-lui de bouger! Elle ne se bouge pas. Vous êtes comme ça, parfois? Vous êtes en train de servir peut-être à l'église ou ailleurs et tu vas regarder l'autre et tu vas dire, regarde, moi je m'active, lui il ne s'active pas. C'est insupportable. Il y en a qui sont comme moi ou je suis tout seul? Ce matin, je bougeais les chaises, il n'y en a pas un qui sait mettre les chaises correctement ici. C'est incroyable. On part 2 semaines, c'est la pensée que j'ai eue. 7 chaises-là, 6 chaises-là, purée, ça fait 20 ans que c'est comme ça. 6. Ah! Là, c'est comme ça. Là. Personne qui pense. Oui, c'est ma pensée, parce que j'aime bien que dans l'église, les chaises soient bien mises. J'arrive, la première chose que je dois faire, c'est mettre les chaises. C'est fou. Alors j'ai dit, alors dans ma tête, je me suis dit, je vais former Lévi. Lévi, t'es foutu, il est où Lévi? Ça va être toi. Tu vas être responsable que les chaises soient bien mises. Oui, on est organisé, on aime bien que ça fonctionne, mais j'ai peut-être perdu 10 minutes avec les chaises plutôt que parler avec quelqu'un que j'avais envie de voir. Mais j'ai décidé que quelque part, je voulais que les chaises, j'aurais pu les laisser comme ça. Et prendre la bonne part. Et dire, je vais aller parler avec quelqu'un. Je ne l'ai pas fait, vous voyez, j'étais un madame, mais je ne suis pas encore bien réformé en moi-même. Alors Marthe, elle est là, elle s'active, elle est, voilà, c'est une bonne gauloise. Mais ce qui va se passer, regardez bien ce que Jésus va lui répondre, et c'est ça qui m'intéresse, parce que Jésus va lui donner une leçon de vie. Et vous savez, les plus grandes leçons de Jésus, c'est les leçons les plus simples et qui pourtant sont pour nous les plus dures à mettre en pratique. Et il va lui dire quoi? Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Jésus m'aurait regardé et aurait dit, Alex, Alex, tu t'agites pour beaucoup de choses. Wilfried, Wilfried, t'es tellement beau, mais c'est pas la priorité. Yannick, ton fer à repasser, là, ah, tu pourrais gagner 10 minutes dans la présence de Dieu. Et là, vous pouvez tous cibler quelque chose dans votre vie où Jésus vous regarde et il dit, tu t'agites, tu es en train de suer pour des choses, ce n'est pas nécessaire. Et il est bien écrit, nécessaire. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Nécessaire, ça veut dire que tu es obligé de. Et pourtant, parfois, quelque chose qui n'est pas nécessaire, on fait tout pour l'avoir. Et quelque chose de nécessaire, on le délaisse. Et Jésus, son attitude, elle est exceptionnelle. Parce qu'ici, il ne va pas reprendre durement. Il y a une attitude, Jésus, où il va lui dire, regarde. C'est comme s'il dit, allez, allez, laisse, laisse. C'est comme Rodolphe qui me dit, Alex, mora, mora. Oui, c'est, j'ai vu en cette parole, ça aurait été ma parole des 2 semaines. Alex, mora, mora. Et Jésus qui dit, laisse, arrête un peu. Arrête de courir, arrête de te débattre, arrête de gesticuler, calme-toi. Et là, imagine Jésus qui dit, calme-toi. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il y a un moment pour s'activer, mais il y a un moment dans la présence de Dieu où il faut s'asseoir, ouvrir les oreilles, écouter, parce que la parole qui va descendre dans ton cœur, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand c'est la parole de Dieu, quand tu entends quelque chose où tu sais que c'est la parole de Dieu, arrête de t'agiter, ouvre tes oreilles. Cette parole, je veux la faire mienne, parce que je sais que cette parole, elle va susciter une action de foi. Elle va susciter une œuvre de foi. Elle ne va pas susciter quelque chose que je fais pour faire et me faire du bien, mais elle va produire quelque chose qui a une portée éternelle. Et la foi a une portée éternelle. Et tout ce qui est œuvre faite par la foi a une portée éternelle. Vous savez, faire ce toit n'a pas une portée éternelle. Faire le toit, c'est une portée humanitaire. On aide des gens à un instant T pour que leur vie soit meilleure. Ça, c'est l'humanitaire. Et je suis heureux d'avoir fait de l'humanitaire. J'ai été touché, j'ai dit je peux le faire, je le fais. Je n'ai pas réfléchi, c'est ce que je disais à Yannick, je ne me suis pas mis à genoux pendant 3 semaines. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? J'ai dit je peux le faire, je le fais. D'accord? Et c'est humanitaire. Mais moi, il y avait en moi, pendant ce voyage, un moment où je me suis dit Seigneur, c'est bien l'humanitaire, mais je ne veux pas que ma vie soit consacrée à l'humanitaire. Tu nous dis de nous occuper de ton royaume. Et on a fait la semaine, on a fait notre semaine. Et là, à un moment donné, on voit le monsieur Dami, là, que vous voyez, que vous avez vu, le directeur de l'école. Et j'apprends que monsieur Dami, depuis peu, est pasteur. Quelque chose que je ne savais pas du tout. On n'était pas au courant. On savait qu'ils étaient chrétiens, mais on ne savait pas qu'ils étaient pasteurs. Et lui, il courait, comme ça. Toute la journée, je le croisais, il courait, il allait acheter. Imaginez, hein, il dévalait les pentes dans les petits quartiers, il courait, il allait acheter. Et puis, il disait au porteur de ramener, c'était une manutention exceptionnelle. Et je le voyais dans les rues, il courait. Parce que moi, je ne pouvais pas trop sortir, je suis un blanc. Alors, un blanc, là-bas, on le dépouille. Par contre, Yannick, lui, il prenait pour un malgache. Donc, c'était excellent. Parce que Yannick, il pouvait partir, il pouvait aller tirer à la banque de l'argent, tout allait bien, il était malgache. Alors, il a pu en jouer. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai dit, c'est incroyable. Et on a appris ça à la fin du séjour. Et non seulement ils se sont consacrés pour éduquer les enfants qui n'ont pas d'éducation, vraiment pauvres, mais le dimanche, qu'est-ce qu'ils font dans la grande pièce? Eh bien, maintenant, ils font des cultes pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans une église et ils remplissent et il y a l'œuvre de Dieu qui se fait là. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est une pierre de coup. On a changé le toit, non seulement d'une école, mais d'une église. C'est pas merveilleux, ça? Et là, c'était vraiment, je me suis dit, waouh, Seigneur, ça n'a pas qu'une portée humanitaire, mais c'est une portée éternelle, parce que là, il y a des gens qui vont être sauvés, qui vont suivre le Seigneur. C'est pas merveilleux, Wilfried? Merveilleux. Alors, on va voir une autre histoire. Donc, Jésus, vous avez bien compris qu'il va reprendre Marthe, mais vraiment comme un ami, vraiment comme un frère. Il va dire, Marthe, calme-toi, mot à moi. Il n'est pas en train de lui dire ce que tu as fait, c'est péché. Il n'est pas en train de lui dire tu t'actives trop, tu es dans le péché, tu es une mauvaise chrétienne. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'il lui dit. Il dit délaisse un peu ces choses-là parce qu'il y a des choses plus importantes. Et ça, ça nous parle à tous. Des fois, on est très actif dans notre vie, dans nos engagements, dans peut-être nos loisirs. Et Dieu va te dire calme-toi, ce n'est pas ça qui est important. Tout ça, c'est de la distraction, je t'attends ailleurs. Dans l'église aussi, tu peux être très actif. Et bah, mais tu cours gauche-droite, et finalement, tu n'entends même plus. Moi, des fois, il y a des gens, je les vois, ils courent, il y a une parole de Dieu, ils ne s'arrêtent pas pour entendre. Et pourtant, on crie, je veux entendre ta présence, j'aimerais ta parole. Vous voyez, on aspire à ça. Mais on est tellement occupé sur nos activités que, humainement parlant, et bah, c'est tout. On est concentré, on est dans un canal de réflexion, un tunnel, on n'arrive plus. Et Jésus dit, calme-toi. Mais ce n'est pas un problème de péché. C'est un problème de motivation. Marthe était motivée par le fait de bien faire, de toucher l'excellence. On entend souvent l'excellence. Des fois, tu cherches tellement l'excellence qu'il n'y a plus le cœur. Vous voyez ce que je dis? Et tellement motivée par le fait de bien faire qu'elle n'entend plus cette voix-là. Mais ce n'est pas un péché. Maintenant, on va prendre une autre histoire. On va prendre Marc 10, versets 13 à 15. Donc, gardez à l'idée que vraiment, Marthe, il y a un équilibre à trouver. Chacun de nous, on a un équilibre à trouver entre l'action, les œuvres, et la contemplation du Seigneur, contempler sa présence, être avec lui, vivre avec lui. Alors, Marc 10, versets 13 à 15. on lui amena, on va prendre un exemple de, encore une fois, le fait d'être conditionné dans une pensée. On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » C'est encore une parole exceptionnelle de Jésus, un enseignement. Si tu mets ça en pratique, ça change déjà beaucoup de choses dans ta vie. Les disciples, ils sont contents, ils savent ce que peut faire Jésus, ils savent ce dont il est capable. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est dans une foule, vous lirez le contexte. Et puis, on a envie que les enfants soient bénis, on les pousse, certaines personnes les amènent. Et là, les disciples, ils vont faire veto. Ils vont faire veto parce qu'ils vont dire, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, on n'approche pas Jésus comme ça. Nous, on est les privilégiés. Mais toutes sortes de pensées peuvent leur passer par la tête. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ne vont pas laisser l'opportunité aux enfants d'approcher Jésus. Et Jésus, sa réaction est incroyable. Il nous est dit qu'il fut indigné par ça. Il est indigné. Il n'aime pas ce qui se passe. Indigné, ça veut dire que tu touches un déplaisir, un grand déplaisir. Tu n'as aucun plaisir, donc c'est vraiment, tu as un malaise. Ce n'est pas qu'il est énervé, ce n'est pas qu'il est en colère. C'est juste qu'il y a un malaise face à cette situation-là. Il est indigné. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? C'est une bonne intention, il ne faut pas déranger Jésus. Pour eux, dans leur tête, ils sont bien intentionnés. Et ce qu'ils vont faire de leur propre chef, Jésus en est indigné. Parfois, on fait des choses, Jésus est indigné de ce qu'on fait. Dans l'église, dans ta maison, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, tu vas avoir une attitude. Là, on est vraiment dans la question de l'attitude qui indigne Jésus. À nouveau, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas grave. Mais il n'aime pas ce que tu fais. Il n'est pas en phase avec toi. Ton attitude ne plaît pas à Dieu. Est-ce que tu peux maintenant réfléchir et te dire quelle attitude j'ai eue cette semaine qui n'a pas plu à Dieu? Parce que tu es son enfant. Hein. Moi, il y a des attitudes qu'ont mes enfants, j'aime pas. Hein. Wilfried, il y a des attitudes qu'ont tes enfants, tu n'aimes pas ça. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas... Non, mais ça te... J'aime pas, là. C'est pas comme ça que je l'éduque. Vous voyez? On ne peut pas tout maîtriser en tant que parent. Il y a cette zone où l'enfant il est libre de faire ce qu'il veut. Ben nous, on est les enfants de Dieu, on a une liberté dans notre vie, mais il y a certaines choses que l'on fait indignes de Jésus. Il n'aime pas. Et il nous dit quoi? Et ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas. Empêchez pas de quoi? Les empêchez pas de me toucher, les empêchez pas de passer un bon moment avec moi, ne les empêchez pas de... Non, c'est ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu... Il y a une question de royaume de Dieu. Parfois, nous, l'objectif de Dieu, c'est que son royaume se répande, c'est que son royaume s'étende, et parfois, toi et moi, à cause de notre attitude, on peut être là et bloquer la libération du royaume de Dieu, l'extension du royaume de Dieu, parce qu'on veut que ça se passe comme ça. J'ai décidé qu'à la fin de ma prédication, ce serait comme ça. J'ai décidé que ma louange serait comme ça. J'ai décidé que dans ma famille, ça fonctionnerait comme ça. J'ai décidé que mon travail, j'allais le gérer comme ça. Ce n'est pas un péché. Et Jésus te regarde et il dit, tu bloques le royaume de Dieu. Tu te prives non seulement toi de bénédictions, les bénédictions, ça veut dire du bien que Dieu peut te faire, mais tu prives les autres d'être bénis à cause de ton attitude. On n'est pas dans l'ordre du péché. On est dans l'ordre vraiment de ce que tu projettes, de ce que tu penses qu'est le royaume de Dieu, de ce qu'il faudrait peut-être faire pour que ça aille mieux. Et en fait, tu te trompes complètement et Jésus dit... Et là, c'est pareil. Il ne va pas les réprimander. Il va dire, les gars, laissez venir. Mora, mora. Laisse-les venir à moi. Bloque pas, s'il te plaît. Ne bloque pas la bénédiction. Bloque pas la bénédiction. Parce que tu es fâché contre ta femme et tu t'énerves. Tu perds une journée dans les disputes. bloque la bénédiction. Oui, il faut se parler. Oui, il faut se comprendre. Il y a des limites. Mora, calme-toi, c'est pas grave. Et des fois, il y a des choses, on est tellement carré. Hein. Un petit truc. Ça prend une ampleur exceptionnelle. Et ici même, on est tous concernés. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas impacté par cette pensée. Ah, j'aurais fait comme ça. C'est difficile à gérer, ça couine dans nos pensées. Moi, les chaises, ça m'énervait ce matin. Je te le dis. Les punaises, il n'y en a pas un qui met les chaises bien. C'est un détail, c'est rien du tout. Mais tu vois, un détail comme ça, ça peut tourner tes pensées vers autre chose. Et tu bloques la bénédiction. Je veux que mes pensées soient concernées par Dieu. Alors les disciples, ils sont animés par l'intention de protéger Jésus, de garder l'ordre. Et vous savez, dans la question de la protection ici, c'est la question de... Il y a deux notions. Il y a l'attitude de protéger, mais la question de contrôler. J'ai besoin de contrôler ce qui se passe. Et pour contrôler ce qui se passe, il faut que je borne les choses. Comme ça, je me sens serein et c'est moi qui suis au contrôle. Et pourtant, tu chantes « Jésus soit au contrôle ». D'accord ? À partir de ce moment-là, quand tu es dans ce côté protection, qui est protégé simplement une situation ou quelque chose que un contexte, en fait, il ne protège pas Jésus. Il protège leur environnement, il protège leur confort. Et ça, ce n'est pas Dieu. Quand tu es attaché à ton confort, là, que Dieu te pousse un peu, hein, que tu fais tout pour protéger ça, tout. Et Dieu dit, écoute, calme-toi, hein, doucement, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Pas ta voiture, parce qu'il y a une griffe. Chanel, elle m'a caché une griffe. Je suis rentré, elle m'a dit, regarde, je t'ai caché une griffe. Mais je dis, chérie, c'est pas elle qui l'a faite. Hein. Mais elle s'est dit, je ne vais pas lui dire. Mais vous savez, ça, je lui ai dit, chérie, il faut que tu mettes à jour. Je suis tellement plus attaché, tu peux griffer, tu peux cabosser, j'en ai plus rien à faire. C'est pas elle qui l'a faite. Mais oui, il y a une griffe en plus sur ma voiture. Je dis, je m'en fous. Elle roule, tout va bien. Et oui, je vais perdre de l'argent. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas quelque chose qui va me voler 10 minutes dans ma journée. Ça ne me volera même pas 15. Mais il a dû fallu prendre une position. Je ne suis pas attaché à ma voiture plus qu'à ma joie. C'est un choix. Je ne suis pas attaché à ma voiture plus qu'à ma joie. Est-ce que tu peux dire ça? Ah, je suis pas là, Yannick. Hein, Yannick, ça a été compliqué pour le sport. Yannick, t'en prends beaucoup aujourd'hui. Hein. Il m'a dit, Alex, moi, quand je vais pas trois fois, je vais pas tous les trois jours au sport, j'ai un manque. Là, je dis, mon gars, dans ma tête, je me dis, il sait pas ce qu'il attend dans le programme. Hein. Pas le sport, il va se rendre compte que c'est pas grand chose dans la vie. Hein. Et puis, Yannick, voilà tous les trois. Et là, il s'est rendu compte. On se réveillait tôt le matin. On travaillait, il y avait des réunions tous les soirs, il était éreinté. Un dimanche, un culte à 7h, un culte à 10h, un culte à 14h. Le soir, on rencontre des gens, on fait la Sainte-Seine à 22h. Il dit, mais c'est quoi ça? Il a dit que c'est ma vie. Il était de plus en plus fatigué, mais il était de plus en plus béni. Parce qu'il était en train de faire tomber toutes les barrières, là, vous voyez, les habitudes, les trucs. Et moi, je le regardais, je dis, ah, il était là, il était dans certains cultes, il était là. Je dis, Yannick, allez, vas-y. Ah, il se relevait. Et puis il recevait, il vivait une bonne louange. Il prenait sur lui, tu vois. Et jusqu'au moment où, hein, Yannick, il s'est passé une belle chose le dernier. Et alors je lui avais dit, Yannick, à chaque fois que je prie pour quelqu'un, il faut imaginer, hein, quand on faisait un appel, c'était des centaines de personnes. Je dis, tu vas rester à côté de moi. Et il ne savait pas où se mettre. Je peux prier, je peux pas prier, je peux prier. Je dis, Yannick, tu restes à côté de moi. Hein, tu regardes. Et après, je me retournais. Alors moi, je devais gérer Yannick. Et en même temps, les gens qui étaient devant moi, tu vois, c'était compliqué. Puis je dis, Yannick, est-ce que tu as reçu quelque chose? Tu me le dis, hein, si tu as reçu quelque chose. Ah, ça lui mettait la pression. Hein. Mais comment on reçoit quelque chose? Je n'avais jamais vécu ça, Yannick. Mais comment on reçoit quelque chose? Et puis, premier week-end, il me dit, ah, c'est un peu frustrant, j'ai pas reçu quelque chose. Il me dit, ça va venir, Yannick, t'inquiète pas, tu vas voir, il y a des choses qui vont se déplacer en toi, et c'est Dieu qui fait, et puis voilà. Et puis, dernier dimanche, là, samedi, à La Réunion. Déjà, il a fait son témoignage. Les gens ont été vraiment touchés par son témoignage. Et ensuite, le dernier dimanche, on prie. Et puis là, j'ai 60 personnes devant moi. Imagine. Et une onction que je n'ai jamais connue dans le ministère. Vous voyez, Dan Lee ? La même chose, pas en prophétique, mais en parole de connaissance. La même chose. Je me suis dit, même moi, je ne me connaissais pas comme ça. J'ai dit, il se passe. Chaque fois que je touchais quelqu'un, il y avait une parole de révélation pour sa vie. Chacune, chaque personne, je disais, Seigneur, viens. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas changé, hein, les gars, vous attendez pas à ça ici, c'était là-bas. Hein. Okay, c'était une grâce, c'était une faveur, c'était une onction. On a préparé ça dans la prière. Mais vraiment, il s'est passé des choses. Et puis d'un coup, je prie pour les personnes, tout. Je prenais bien 5 minutes pour chaque personne. Et là, d'un coup, j'entends Yannick au micro. Écoutez, j'ai reçu une parole, voilà. Et puis vraiment, c'était une parole qui a été confirmée par le pasteur. Elle a touché des gens et les gens étaient heureux. Il y avait vraiment une grâce, une bénédiction dans sa parole. Parce qu'il y a beaucoup de barrières qui sont tombées jour après jour. Est-ce que tu me suis ? On est carré. Ok, je termine avec une pensée parce que j'ai déjà débordé. Matthieu 16, verset 23. Comme ça, je conclue le message. On y reviendra s'il faut, mais l'important, c'est de comprendre la pensée. Donc, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Vous le connaissez, celui-là. « Tu mets en scandale. » Là, il lui est en scandale. Il s'indigne plus. Il lui dit, « Regarde-moi, arrière de moi, Satan !» C'est plus le même narratif, là. Là, c'est « Mora, mora, ça va aller, laissez venir. » Là, c'est « Arrête maintenant. » Ça suffit. D'accord ? Et là, il va lui dire quoi ? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, à nouveau, est animé d'une bonne intention, mais il est animé de pensées charnelles qui sont elles-mêmes influencées par le malin. D'accord ? Lorsque tu es dans ton fonctionnement de ton carré, ton machin, c'est pas Satan, hein, c'est juste toi, ta tête, ton fonctionnement, ton influence. De manière générale. Et Dieu dit, allez, arrête de bloquer la bénédiction, il faut que tu libères la bénédiction parce que c'est ce que je veux. Et soit tu t'y fais, soit tu ne fais pas. Par contre, si tu ne fais pas, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. C'est, tu te prives de bénédiction, tu prives les autres de bénédiction. Mais là, c'est différent. C'est que sa pensée humaine de vouloir rester auprès de Jésus, de vouloir garder Christ pour lui, va être influencée par l'esprit du malin pour l'objectif détourner Christ du plan du sacrifice. Et là, Satan, il va pas être content. Jésus, il va pas être content. Il va dire ça, par contre, ça, il n'y a pas de mora mora. Dégage. Parce que je sais que je vais devoir passer à la croix et tu ne vas pas me détourner du plan de Dieu pour ma vie. Et on doit apprendre à faire la différence entre nos pensées charnelles et où Satan vient souffler là, tu vois, pour nous détourner nous-mêmes, notre famille, du plan de Dieu. Et là, on doit dire, Satan, on doit l'écraser, on doit prendre notre autorité et dire, Satan, tu recules, arrière de moi, tu dégages de ma famille, tu n'as aucune autorité dans ma vie. Et ces moments où on est juste là dans notre confort, et puis on bloque, et Jésus dit, allez, change tes habitudes, abandonne 2-3 petits trucs, tu verras, tu vas être une bénédiction au milieu des tiens, au milieu de ton église et de ton entourage. Est-ce que tu as compris la pensée ? Tu as compris cette pensée ? Amen. Alors je vais prier, je ne vais pas aller plus loin.